With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast, enfin live sur Twitch, vous le savez. Désormais, donc là je vais revenir, puisque oui je suis seul entre Polydomso qui a affaire ce soir et Rusty B qui est dans l'avion qui vous prépare un petit reportage pas piqué des hannetons. D'ailleurs si vous avez vu celui sur la préparation de Cyril Gane juste avant UFC 265, bah, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou en commentaire. Franchement on a trouvé avec Ben, avec Polydomso, que c'était vraiment son meilleur. Yo le JBB, bonjour, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai tant bien que mal, bien évidemment. Donc là, on va vraiment faire, finalement, le point sur cette UFC 265. Avec Polydomso, on a parlé du main event, donc à savoir la victoire de Cyril Gane sur Derrick Lewis. Là, on va voir en détail les combats qui ont marqué, mais aussi bah, les principaux agitateurs de cette main card. Mais avant, petit point au niveau des stats. Donc c'est Dana White qui a fait le point, comme à chaque fin d'événement numéroté, de pay-per-view numéroté, sur ce qui s'est passé. Oui, magnifique, oui, on nous signale Masterclass T-shirt My Protein, My Sweet Protein, vous savez, moins 38% sur tout My Protein, avec le code LASSUR. Et oui, une masterpiece de Rusty B. Alors, au niveau du reportage, donc au niveau de la billetterie, 3,4 millions en tout, il y avait plus de 16 000 spectateurs qui était présent au Toyota Center. Ce n'est pas le record de l'UFC pour un événement au Toyota Center. Le record appartient à l'événement où il y avait Tony Ferguson et le combat Michael Chandler contre Charles Oliveira, donc qui date d'il n'y a pas si longtemps. Bien évidemment, au niveau des performances, donc Fight of the Night, on va en parler tout à l'heure, Bobby Green contre Rafael Fiziev. Performance of the Night, on a Jessica Penne qui a réussi à soumettre Ah, Karolina Kowalkiewicz, qui là, va lentement mais sûrement vers la sortie. 5 défaites consécutives. Elle avait commencé en étant à 10-0 à l'UFC. Défaite face à Joanna Jędrzejczyk. Et là, elle est à 12-7. Très compliqué. Vraiment très très compliqué pour elle. Donc je pense vraiment que ça risque de partir pour elle. Et enfin, Miles Jones avec un superbe enchaînement qui lui a valu un KO de l'espace. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Cyril a obtenu son bonus lui aussi de performance de la soirée après qu'un journaliste ait interpellé Dana White pendant la conférence de presse. On m'a dit, qu'est-ce qui se passe pour Cyril? Et Dana White fait, ok ouais, on va lui mettre aussi le bonus de performance de la soirée. On lance le générique et puis on va aller crescendo au fil des combats de cette UFC 265. Let's go, tout simplement. Allez, on va se lancer le générique normal. C'est parti. Et on est reparti. Alors, on a déjà quelques questions. Oui, Rusty B était bien présent. Il était dans les vestiaires en backstage. Donc là, il est de retour. Il revient de Las Vegas, mais non, de Houston pour revenir à Paris. Question aussi d'Azerty. Salut le G. Vous allez parler du retour de Badr Hari, de la folle carte du Glory 78. Glory 78, ça revient début septembre. On a encore la chance d'être partenaire avec l'organisation. On vous prépare de très très belles choses. Enfin, en tout cas, j'espère que vous allez apprécier ce qu'on vous prépare là-dessus. Ça devrait commencer à arriver d'ici le courant de la semaine prochaine. Donc, quand je dis courant de la semaine prochaine, bah, c'est tout simplement demain, lundi. Donc voilà, on va pas mal travailler là-dessus. Donc, on va commencer, les gars, avec le combat de la soirée, tout simplement, entre Rafael Fiziev et Bobby Green. Rafael Fiziev, Grosse hype dans cette catégorie lightweight. Monte crescendo, KO sur Brandon Moreno, sur Moicano, Renato Moicano, qui là a vraiment éveillé les esprits, on va dire, du plus grand public. Et aujourd'hui, 4 victoires consécutives pour lui, 4e plus longue série de victoires de la division. au cours du combat, ce qui était complètement dingue, c'est que Bobby Green, respect éternel à ce gars-là, mais vraiment, enfin vous, il a affronté tous les gars de la catégorie, et aujourd'hui encore, on a vraiment l'impression que malgré son ancienneté, malgré son âge, j'ai presque envie de dire, il n'a jamais été aussi bon. Il a encaissé un nombre de leg kicks, mais monstrueux. Il a toujours mis la pression malgré les parpaings, littéralement, qu'envoyait Fiziev. En tout, ils ont tenté 486 frappes en 3 rounds. Enfin, monstrueux. Donc certes, il y avait vraiment, techniquement, une énorme, on va dire, domination et supériorité de la part de Fiziev. Mais Bobby Green a toujours imposé la pression. Quoi qu'il encaissait énormément, mais, et c'est pas un petit mais, et là en fait je pense à mon avis moi que ça va aussi lui servir au niveau de l'expérience vraiment à Fiziev, parce que là il affronte un peu le gatekeeper ultime hein, de cette catégorie lightweight, pour la suite de sa carrière. Là il y a quelqu'un qui n'a pas reculé, et on a pu voir dans le troisième round notamment, même s'il y a eu 30-27, bon, enfin bref, certaines décisions des juges qui laissent toujours un petit peu perplexe, il y a eu quand même une nette baisse de régime de la part de Fiziev, donc je sais pas à quoi c'est dû particulièrement, mais là pour lui ça va vraiment être, à mon sens en tout cas, un espèce de wake-up call, en tout cas je l'espère, hein, pour la suite de sa carrière, parce que ce n'était que Bobby Green, toute proportion gardée, Bobby Green qui a quand même un petit peu de difficulté à gérer sa distance dans les frappes notamment. Ça s'est passé contre Bobby Green, mais en vue de ses ambitions à Rafael Fiziev, où clairement quand vous voyez ce qu'il apporte, c'est un contender en devenir de cette catégorie-là. Qui veut dire contender en devenir veut dire aussi main event ou combat en 5 rounds, ça devrait être ça pourrait être très compliqué pour lui pour la suite. Moi, clairement, j'aimerais beaucoup pour Fiziev, pour la suite, soit Brad Riddle, soit Drew Dober. Parce que vous avez vu ce que Fiziev apporte, c'est la folie. Il a call-out Hasbulla, vous savez, Hasbulla phénomène sur les réseaux sociaux. Ça n'arrivera pas, bien évidemment, rassurez-vous. Moi, j'aimerais bien Drew Dober ou Brad Riddle. Brad Riddle, parce que ça commence à être un nom qui vient tout juste de battre Drew Dober lors d'un combat qui était d'une violence rare, là aussi, entre deux strikers qui ont absolument tout envoyé. C'était sur un pay-per-view, je crois que c'était l'événement Adesanya, donc ça devait être aussi c'était le 263, je crois. Et vraiment, c'était un combat, enfin, je vous invite vraiment à le voir, qui monte vraiment Brad Riddle, là aussi. Donc ça pourrait être intéressant pour la next gen. Fiziev contre Drew Dober, ça m'intéresserait aussi, parce que ça ferait un test en plus, et c'est pas deux gars qui sont vraiment sur la phase ascendante. Là, aujourd'hui, Drew Dober, il a clairement montré ses limites, donc ça pourrait permettre à Fiziev, en fait, un nouveau test, en plus un striker, et ensuite, s'il arrive à valider le test de Drew Dober, là, on le met vraiment contre un véritable membre du top 15, et je me dis, pourquoi pas Thiago Moïse, qui pourrait être intéressant pour lui au sein de cette catégorie. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées. Voilà, logique pour combien de subs tu spares avec Hasbulla, mais arrêtez donc ça, 1000 subs contre Hasbulla, I'm coming for you, donc voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions. Oui, c'est le journaliste John Morgan, voilà, qui a évoqué les 50 G's pour Cyril, qui l'a fini par les obtenir. Donc là, on va passer directement, messieurs, à la main card, avec le Chiesa contre Vicente Luque. Alors, Chiesa, Vicente Luque. Donc c'était un combat que on en avait parlé avec Puidomso, particulièrement intéressant entre le 5e et le 6e de la catégorie. Ça a été vraiment intéressant à mon sens, parce que on a vu une victoire de Vicente Luque qui a dû traverser quand même une période assez difficile dans le combat, puisqu'il mettait la pression face à un Michael Chiesa qui, lui, de son côté, et tout simplement était un petit peu sur le reculoir, mais il a réussi à surprendre Luque sur un 1-2, il a ouvert Luque au visage. Luque ensuite qui, vous le savez, il a vraiment de la dynamite dans les poings, donc il y a un flash knockdown sur Michael Chiesa, et là Michael Chiesa qui a aussi rassuré tout le monde, et moi vraiment c'est un combattant que j'apprécie, dans le sens où là vous pouvez voir aujourd'hui que Michael Chiesa qui était lightweight auparavant, hein, c'est complètement dingue, aujourd'hui il est welterweight, mais il est quasiment middleweight, quand vous le voyez physiquement, c'est un monstre, et il a réussi à mettre Vicente Luque au sol, comme ça, et ça c'est vraiment impressionnant, parce que en lightweight, il n'arrivait plus à faire ça, si vous voulez, là aujourd'hui, il est dans une phase de sa carrière, et c'est là que moi vraiment ça m'impressionne, Il est sonné, il est mis flash en down par Vicente Luque, donc là vous avez une alerte, mais alerte rouge clairement quand vous êtes à sa place. Donc il faut absolument, parce qu'il n'a pas le bagage qu'a Vicente Luque en striking, il faut qu'il puisse le mettre au sol et faire parler sa lutte. Et il arrive directement à pouvoir l'amener au sol. Je pense par exemple au combat Mark Hunt contre Curtis Blaydes. Curtis Blaydes est sonné par Mark Hunt, il lui faut absolument un takedown. Kevin Lee par exemple contre Edson Barbosa, après que Edson ait réussi son spinning. Et c'est là que vous voyez les très très bons lutteurs des autres en fait. Il leur faut absolument un takedown pour se donner de l'air, pour gagner du temps, et ils y parviennent. Kessa ne pouvait pas parce que physiquement, le cutting était beaucoup trop pour lui en lightweight, mais là, en welter, il y arrive enfin, et donc là, à partir de ce moment-là, quand je l'ai vu le mettre au sol, je me suis dit, oui, exactement, c'est un vrai 170, et même, je pense qu'à l'avenir, il pourrait être crédible chez les middleweight. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il le met au sol, et là, on se dit, je pense que vous êtes tous dit ça, ok, Michael Chiesa, il a l'avantage, enfin en tout cas la supériorité en lutte, mais pas forcément en JJB, parce que Vicente Luque a un certain CV, de certaines références dedans, partenaire d'entraînement aussi de Gilbert Burns, ne l'oublions pas, et là, il a manqué, à mon sens, de QI combat de la part de Michael Chiesa. Contre, lors de son précédent combat contre Neil Magny, il avait contrôlé, parce qu'il fallait qu'il contrôle, il fallait pas tout le temps chercher la soumission, donc il commence par chercher l'étranglement, il n'arrive pas à finaliser. Ensuite, il cherche la clé de bras, il n'arrive pas non plus face à Vicente Luque, et là ensuite il se dit je vais me relever, mais il essaye de se relever en ne se protégeant pas tout simplement, ou en étant peut-être trop en confiance. J'exclus pas non plus que le flash knockdown ait fait qu'il n'avait pas, qu'il n'avait pas pleinement recouvré toutes ses capacités, et donc là, Darkstroke qui n'a rien à envier à celle de Tony Ferguson pour Vicente Luque, qui plie l'affaire. Assez surprenant parce que, bon, elle devait être tight, mine de rien, pour que Vicente Luque, Vicente Luque, Michael Chiesa tape aussi rapidement. Mais c'est vrai qu'on a été assez surpris avec Poly Domso et Ben que justement, ça se conclut de cette manière-là pour Michael Chiesa, parce qu'il n'avait pas l'air d'être, à ce moment-là en tout cas, pas que directement le combat allait se terminer. Donc ensuite, il a directement réagi, Michael Chiesa, en expliquant que justement, il s'était très bien entraîné, physiquement, il se sentait très bien, il avait eu un bon camp d'entraînement, et qu'il lui a manqué, justement, un petit peu de lucidité pour ce combat, et c'est vrai, c'est ce qu'on a vu. Et de son côté, Vicente Luque, qui a vraiment, pleinement, joué sa carte, et là, aujourd'hui, il montre, mine de rien, qu'au sol, faut clairement pas lui laisser d'espace, que, en lutte, Michael Chiesa a quand même montré sa supériorité, même s'il a manqué un petit peu de QI combat. Là, aujourd'hui, Vicente Luque, 14-2 sur ses 16 derniers combats, 13 victoires avant la limite, il fait rigoler personne. Donc, franchement, ça, je pense que c'est un petit peu léger à l'heure actuelle pour prétendre à un title shot contre Kamaru Usman. Il a toujours pas affronté Kamaru Usman, c'est ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, dans une catégorie où Kamaru est tellement dominant qu'il est obligé de retrouver les mêmes adversaires encore et encore. Là, on a un petit peu de sang frais. On espérait Wonderboy, qui s'est malheureusement pour lui, cassé les dents sur Gilbert Burns. Là, on a peut-être quelqu'un qui pourrait être un futur contender. En tout cas, il est vraiment sous les radars, Vicente Luque. Et je vous invite à vraiment le regarder avec attention, parce que sur ses deux défaites, lors des 16 derniers combats, il perd contre Leon Edwards et Wonderboy Thompson. Et Wonderboy Thompson, lors du premier round, il y a un petit moment, il va coincer Wonderboy contre la cage, c'était un petit peu chaud. Wonderboy revenait certes de sa première défaite par KO contre Anthony Pettis, donc c'était des conditions un petit peu particulières. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un, faut vraiment pas le négliger, Vicente Luque, dans cette catégorie. Pour la suite, j'aurais aimé un combat personnellement contre Gilbert Burns, malheureusement, ils sont partenaires d'entraînement, ce sont des frères, biologique comme on l'entend, mais je veux dire, ils sont vraiment très amis. Gilbert Burns a dit à plusieurs reprises qu'il n'affronterait jamais Vicente Luque, donc c'est un petit peu dommage pour nous et pour cette catégorie welterweight, parce que là, on se trouve dans une situation où, à mon sens, petit embouteillage, mine de rien. Donc, vous inquiétez pas, je vais répondre à vos questions juste après. Un peu dommage à mon sens pour ça, donc Vicente Luque, j'ai peur qu'il se retrouve dans une situation un petit peu d'embouteillage, à moins que, même si on a Léon Edwards, là vous risquez de me dire, soit en commentaire si vous nous regardez sur YouTube, ou soit dans le chat là, Guillaume t'abuse, un combat contre Leon Edwards pour une revanche. Parce que Leon Edwards aujourd'hui, il est certes sur 10 combats sans défaite, mais Dana White lui a dit, tu ferais peut-être mieux quand même d'être actif plutôt que d'attendre sagement ton title shot parce qu'il risque de te passer sous le nez. Et là, c'est vrai qu'il y a du monde qui pousse. Quand je dis il y a du monde qui pousse, bah, Vicente Luque, mine de rien, bah, il enchaîne. Donc, pour moi, une revanche entre les deux, ce serait pas bête. Si l'UFC, en plus, met clairement ça en tant que title eliminator, donc c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire l'UFC, c'est le gagnant, tout simplement, aura le prochain title shot. Moi, ça me dérangerait vraiment pas. Ça apporterait, ça mettrait la lumière aussi sur deux gars qui en manquent, qui en ont cruellement besoin. Je parle bien évidemment de Leon Edwards et de Vicente Luque. Ça te permettrait de mettre un petit peu de plus de légitimité sur d'autres contenders. Parce que là, clairement, vous avez Colby Covington qui affronte Kamaru Usman en novembre prochain à l'UFC 268. Et après, je vais pas dire c'est Berizina, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, non, moi, je pense que ce serait pas mal un petit peu pour faire avancer cette catégorie. On a Bax France qui, oui, j'ai hâte de savoir ce qu'il pense d'Ivanov Chabazian, mais il y aura certainement un podcast prévu spécifiquement. Et oui, breaking news de la sueur. Donc, Nassourdin Imavov, de retour face à Edmen Chabazian, UFC 268, là aussi, le 6 novembre prochain, Madison Square Garden. La carte, là, elle commence à avoir une sacrée bobine. Hein. Donc, on a en main event Kamaru Usman contre Colby Covington 2. Co-main event Michael Chandler contre Justin Gaethje. Ça va être une symphonie de violence monstrueuse. Vraiment, ça promet vraiment ce combat-là. Sean Strickland contre le revenant Luke Rockhold. Là aussi, vous avez peut-être découvert Sean Strickland lors de son combat contre Ayaol et sa personnalité à part. C'est vrai qu'il y a certaines choses qu'il dit qui sont assez stupides, hein, comme « rien ne me ferait plus plaisir que tuer quelqu'un dans le ring ». Enfin, bon, ça, c'est pas le truc le plus intelligent à dire, mais il fait parler, il a vraiment une personnalité à part. Rust en a parlé aussi dans le podcast, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez intéressant, et puis qui est vraiment différent de ce qui se fait actuellement, on va dire, en termes de... Bah, aujourd'hui, mine de rien, dans les personnalités qui sont mises en avant par l'UFC, face à Luke Rockhold, ancien champion, qui là va faire son retour dans la catégorie middleweight, et donc, Nassourdin Imavov, tout frais sorti de sa victoire par TKO contre Yan Aynish, contre Edmen Chabazian. Je trouve que ce combat est assez intéressant parce que Chabazian, donc Nassourdin Imavov voulait un membre du top 10 UFC, il affronte Chabazian qui est retombé 11e suite à la défaite de Uriah Hall. Il était 10e, comme Uriah Hall est descendu, bah lui il descend aussi d'un cran, donc il est 11e, Uriah Hall 10e. Pour les deux, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant parce que Chabazian, très bon striker, Nassourdin Imavov qui a une anglaise très 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 sérieuse, en plus en novembre, histoire de rassurer tout le monde, là vraiment il devrait avoir pleinement recouvré toutes ses capacités au niveau de sa main qui a été justement cassée lors du camp d'entraînement Yan Aynish. Et de son côté Chabazian qui là, bah, mine de rien, il avait eu deux match-ups qui lui étaient pas du tout favorables. Là pour le coup, si vous voulez, il était invaincu en carrière, on commençait à se dire pourquoi pas, ça peut être intéressant. Je pense notamment à son KO contre Brad Tavares sur un high kick où là tout le monde se dit ok, là on tient peut-être le futur de la catégorie. Et il passe forcément par les tests. L'UFC, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous, en fonction bien évidemment de votre pedigree, mais ils vont vous faire monter petit à petit. Et ensuite, en fonction de ce que vous avez apporté de votre style, il y a des gars à battre. Et ensuite, on se dit est-ce que c'est réel ou non. Chabazian, il suivait un petit peu la route d'Israël Adesanya. Il battait Brad Tavares. Et ensuite, on lui donne qui? On lui donne Derek Brunson. Derek Brunson, lutteur, on en a parlé avec Paulie Domso, qui c'est vrai qu'aujourd'hui a vraiment trouvé le... son style, on va dire, parce que c'est vrai qu'il ne se jette plus à corps perdu, j'ai envie de dire, dans sa lutte, à tenter des takedowns à peine masqués, sans feinte, sans avoir même au préalable installé un petit peu de boxe. Et donc, Chabazian s'est cassé les dents, littéralement, sur Derek Brunson, et ensuite, pour le remettre en selle, là, c'est vrai que l'UFC, au niveau du ranking, c'était intéressant, mais moi, ce qui m'avait assez surpris, c'est que directement, ils mettent Jack Hermanson. Donc, quand t'as servi plus ou moins de serpillière à Derek Brunson, te mettre directement contre Jack Hermanson, c'est un petit peu compliqué niveau confiance, surtout avec un adversaire qui présente plus ou moins, on va dire, le même style. Et récemment, Kevin Holland a vécu la même chose, si vous voulez. Il affronte, il perd contre contre Derek Brunson, et ensuite on lui met Marvin Vettori. Enfin, c'est lui qui a voulu le combat contre Marvin Vettori, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux adversaires qui présentent les mêmes forces dans les mêmes domaines, et à moins d'avoir du succès, et quand je dis du succès, un très haut degré de succès dans un combat, ça risque d'être très compliqué pour lui parce que, bah parce que tout simplement l'autre a des réponses que lui, a des arguments que lui n'a pas dans des domaines où il lui est nettement supérieur, et je parle bien évidemment de la lutte. Donc c'est ce qui s'est passé à deux reprises pour Kevin Holland et pour Edmond Shabazian. Et donc pour Edmond Shabazian, donc là c'est avec un, ça va être un combat très dangereux pour lui parce que sur le papier, ça peut faire de très grosses étincelles face à Nassourdine Imavov, et Nassourdine là. Une victoire, une belle victoire face à Yan Elmich, la plus belle de sa carrière, s'il venait à battre Edmond Shabazian, attention, attention, parce que là, dans la catégorie middleweight, il intégrerait le top 10, il n'y a plus que des noms pour lui. Donc vraiment, non, moi, je trouve que c'est vraiment un beau combat. Oui, et statistiquement, entièrement d'accord avec Hoyer, c'était suicidaire pour Holland. Il a tenté, j'ai envie de dire. De toute façon, au niveau du ranking, il était 9e. Il affrontait quelqu'un qui était 5e en la personne de Marvin Vettori. Il avait clairement rien à perdre pour ce combat-là. Hein. C'était, il jouait les sauveurs. Et en plus, c'est quelque chose qui plaît pour l'UFC. C'est, vous venez de perdre votre main event. Il manque un gars. Il faut, mine de rien, remplir le calendrier ESPN. Il faut un sauveur. Et sauveur, c'est Kevin Holland. Donc, il y a peut-être une défaite, mais il sauve un petit peu tout. Et il est rentré comme ça aussi à l'UFC avec son combat contre Thiago Santos. Il a perdu, mais il a fait un très beau combat contre Thiago Santos. Et ensuite, l'UFC a dit, bah ok, on garde ce mec-là. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu... Ce sont des défaites, mais ce ne sont pas des défaites graves en termes de carrière, parce que c'est ce qui fait aussi, ce qui vous forge une image de favori du public pour la suite. Bien, alors on va avancer. Il y a pas mal de questions sur Cyril et tout ça. On avance petit à petit. Là, on va passer, les gars, au co-main event. José Aldo, Pedro Munhoz. Oh là là, duel 100% brésilien. Oh. José Aldo, mais vraiment, je pense qu'à tous les fans de la première heure de José Aldo, il vous a fait plaisir. En tout cas, il m'a fait plaisir. C'était la première fois qu'il affrontait quelqu'un qui avait d'aussi solides arguments en termes de calf kick, ces fameux calf kick que vous avez peut-être découvert lors de l'UFC 257 Conor McGregor contre Dustin Poirier. Et bah là, José Aldo a dit non, il les a checkés avec autorité, et donc il montre aussi qu'il y a une réponse à ces calf kicks, et c'est impressionnant, parce que rares sont ceux qui parviennent à les checker. Il a aussi profité de son allonge pour travailler en jab, José Aldo. Encore une fois, quand il est descendu, je crois que c'était en 2019, en bantamweight, à son âge, après toute sa carrière, un certain nombre de guerres, j'avais des doutes sur son succès potentiel en bantam, et là, il montre vraiment que pour insuffler un second souffle, non, troisième, quatrième souffle à sa carrière, c'était pas une erreur de descendre chez les bantams, parce que là, sa vitesse, l'avantage en vitesse, il l'avait sur Pedro Munhoz, et le physique est toujours là, et vraiment, ça paye, c'était en 3 rounds certes, donc on n'a pas eu de deep comme on a pu avoir ces derniers temps avec José Aldo, quand il affronte des adversaires de très très haut niveau, mais il a montré qu'il avait vraiment sa place, et aujourd'hui qu'il fait partie des meilleurs bantamweights de la planète, peut-être pas champion à mon sens, mais un des meilleurs bantamweights de la planète. Petite masterclass aussi de José Aldo, mine de rien, parce que c'est serré sur les deux premières, mais il est un ton au-dessus. Et le troisième, gros travail en combinaison, il s'est envolé dans le troisième round tout simplement, avec 114 frappes significatives. Tenez-vous bien, il bat son record à l'UFC. Mais quand je dis à l'UFC, c'est pas en combat en 3 rounds, c'est combat 3 rounds, 5 rounds. Il avait jamais été aussi actif en termes de frappes. Mais là aussi, coup de chapeau, je tire mon chapeau à Pedro Munhoz, parce que Pedro Munhoz, c'est un mec, il avance tout le temps, il encaisse, mais regardez ses combats contre Frankie Edgar, sa victoire contre Cody Gabante, comme très très peu d'autres gars.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà, rares sont ceux qui présentent ce que ce qu'a Pedro Munhoz. Et forcément, enfin, si vous encaissez autant de frappes significatives, c'est que vous avez un adamantium, ce qu'a Pedro Munhoz. Donc franchement, impressionnant aussi. Pour la suite, José Aldo veut TJ Dillashaw. Sur le papier, moi j'aimerais beaucoup voir ça entre deux vraies légendes du sport, anciens champions, mais un peu compliqué pour José Aldo. Je dis un peu compliqué, pas sportivement, mais c'est juste que TJ Dillashaw est revenu face à Corey Sandhagen, numéro qui était classé, je crois, numéro 3 de la catégorie ou numéro 2 de la catégorie. Là, prochain combat pour lui, c'est le titre et rien d'autre. Alors que José Aldo, il affrontait un adversaire qui était classé derrière lui, il est 5e, je crois. Donc ils sont pas au même stade, enfin quand on dit au même stade, pas de leur carrière, mais là actuellement en termes de ranking, c'est compliqué. Et pour moi, je réitère ce que j'avais dit dans le live qui précédait justement l'UFC 265, j'ai envie de voir ce combat contre Rob Font. Rob Font, il est numéro 3, il a un excellent jab qui passe, pas la kryptonite de José Aldo, mais contre Max Holloway, on avait vu qu'il avait beaucoup de mal avec ça, donc en cas de victoire contre Rob Font, il pourrait cocher un petit peu cette case-là. Il éliminerait aussi un contender en puissance, un des nouveaux noms de cette catégorie, et bref, pour moi, ça le replacerait vraiment dans le jeu. Vous étiez nombreux à nous poser des questions lors du live d'avant UFC 265. Est-ce que c'est le combat de trop pour José Aldo? Combat de trop face à quelqu'un comme Pedro Munhoz, qui n'est pas non plus la next gen. Là, contre Rob Font, moi, ce serait intéressant, parce que en cas de victoire, vraiment, il se positionnerait comme contender ultra crédible, et surtout, pour un nouveau title shot. Il a déjà perdu contre Peter Yan après avoir fait 3 très beaux rounds. Ensuite, c'était très compliqué pour lui. Il s'est même fait finir par TKO avec un arbitre qui, certes, avait laissé le combat se dérouler beaucoup trop longtemps. Je pense qu'on est tous d'accord. D'ailleurs, je crois qu'il n'arbitre plus à l'UFC depuis. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, mine de rien, là, José Aldo, il est, à mon sens, à un combat, à une victoire supplémentaire, de retrouver le chemin du title shot, et ce serait vraiment mérité au regard de ce qu'il a montré là. On poursuit. Gann versus Lewis. Gann versus Lewis, s'il vous plaît. Oui, Calf Kick, c'est au mollet. En question de Monsieur W. Calf Kick, c'est au mollet. Pardonnez l'anglicisme, donc c'est au mollet. Développé, enfin popularisé en tout cas par ATT American Top Team en Floride. C'est vraiment, ils sont devenus spécialistes de ça pour contrer. Bah justement, il y a les sidekicks qui peuvent permettre, les sidekicks, les obliques qui peuvent permettre de contrer ces terribles armes. Vous avez pu voir notamment, c'est Nassourdine Imavov qu'on a fait un très bon usage face à Phil Hose, qu'il avait directement désamorcé ça. Cyril Gane aussi face à Jairzinho Rozenstruik, qui avait désamorcé très rapidement toute tentative qu'il pouvait y avoir. Mais, et donc ça, c'est finalement pour prévenir du calf kick avant qu'il arrive. Mais vous pouvez aussi les checker comme José Aldo l'a fait, et ça c'est extrêmement rare. Parce que vous pouvez voir, c'était Junior Dos Santos contre lors de sa revanche face à Stipe Miocic. Il avait eu du succès très rapidement en calf kick, et en fait, si vous voulez, au bout de 2-3, ça y est, la jambe est anéantie tout simplement avec ses calf kicks. Donc il y a vraiment un sentiment d'urgence qui se développe chez l'adversaire. Et Junior Dos Santos, il avait du succès au début du combat là-dedans, et là c'est là que Miocic a commencé à directement accéléré, il a réussi à finir le combat, je crois, en 1 minute 40, enfin, c'est terminé très rapidement, mais c'est vraiment quasi un game changer aujourd'hui. En tout cas, ils sont vraiment très popularisés au cours de ces dernières années. On va passer maintenant donc à Gann Lewis, bien évidemment. Le main event. Donc le main event, Cyril Gann, petite masterclass face à Derrick Lewis, tout simplement. Franchement, le public américain était vraiment surpris de ce qu'a fait Cyril Gann. Il y en a pas mal qui étaient, oui, il a un style qui est ennuyeux, ceci, cela. Là, il a fait une performance à la Adesanya. Vous allez attendrir la viande pendant quelques minutes, ensuite quand il faut finir, vous allez apporter les stockades finales. Et vraiment, c'était minutieusement effectué de la part de Cyril, et vraiment, moi, ce qui m'a d'autant plus impressionné, c'est qu'il n'a eu que 5 semaines. Il n'a eu que 5 semaines pour préparer ce combat-là. Mais 5 semaines où on peut voir que là, le game plan était préparé aux petits oignons. Gestion de la distance, mais magnifique. Un jab, sans doute le meilleur de la catégorie pour lui, qui a, mais complètement annihilé Derrick Lewis. D'ailleurs, la séquence finale, commence sur un jab. C'était pas des high-pokes de la part de Cyril Gane. Lui, il en a reçu. Il a même dit que sa vision était trouble tout au long du combat après deux high-pokes suivis de la part de Derek Lewis. Mais Derek Lewis, chaque fois qu'il montrait, il pointait du doigt Cyril Gane, il disait à l'arbitre, non, c'était pas ça. C'était les jabs de Cyril Gane, extrêmement précis. D'ailleurs, Cyril Gane, au cours du combat, 80% de réussite. Monstrueux, hein. C'est vraiment monstrueux. Le record à l'UFC, c'est, je crois que c'est Alistair Overeem qui était à 74%, ce qui est aussi complètement énorme. Donc ça, c'est gros travail en jab de la part de Cyril. Et aussi, vraiment, une parfaite connaissance du danger adverse, à savoir la droite de l'espace de Derek Lewis, où, certes, Derek Lewis a vraiment manqué d'arguments, pour le coup, dans ce combat, manqué de surprise, mine de rien, parce qu'il y avait quelques signes encourageants, vous allez le voir là dans les prochaines minutes, mais c'est vrai que Cyril Gane, il était vraiment paré à chaque fois à ses droites, aussi bien en passant en dessous des énormes crochets qu'on voyait Derek Lewis, ou alors avec tout simplement... Bon, encore faut-il avoir la discipline et la rigueur nécessaire dans un contexte qui est quand même pas facile. Vous êtes à Houston, premier combat pour le titre pour vous. À chaque fois, la main gauche était là, parée à cet énorme crochet qui pouvait arriver mine de rien à tout moment. Au total, on a quand même 112 frappes contre juste 16 pour Derek Lewis. Plus grand différentiel dans l'histoire de la catégorie à l'UFC, dans un combat pour la ceinture, ce n'était jamais arrivé. 32 sur 32 en leg kick pour Cyril Gane, pareil là, je n'aimerais pas du tout être la jambe avant, donc la jambe gauche de Derek Lewis ce matin, parce que là ça doit lui faire extrêmement mal, donc ouais, gros succès en jab, on avait aussi, mine de rien, un côté omniscient, mais pour Cyril, que ce soit dans la défensive ou l'offensive, il était quasi parfait en tout temps, justement, même si, oui, on peut... Il y en a certains qui vont peut-être fustiger ça, mais le fait que Cyril Gane, de temps en temps, il a vraiment mordu aux feintes de Derek Lewis. Il n'hésitait pas à quasiment courir quand il y avait danger de la part de Derek Lewis, mais rendez-vous compte que c'est un mec qui a 12 KO à l'UFC, record de la catégorie. Bon, vous n'allez pas prendre de risques pour rien, et vous faire surtout enfermer contre la cage. Et c'est là où, en fait, moi... donc, Cyril, parfait de ce côté-là. Mais c'est vrai que Derek Lewis, c'est assez surprenant, parce que, certes, de temps en temps, il arrivait à faire reculer Cyril Gane, mais à partir du moment où Cyril faisait ses déplacements latéraux, il n'y avait plus personne. Aucun cadrage de la part de Derek Lewis à la Paulo Costa ou Conor McGregor dans un autre style, mais à partir du moment où Cyril Gane faisait des déplacements latéraux, il n'y avait plus rien de la part de Derek Lewis, donc c'est vraiment dommage, parce que si vous voulez, de son côté, il faisait une partie du travail, mais ensuite, il n'arrivait pas à exploiter le reste, alors qu'en plus, il avait un travail de feinte, comme j'ai dit tout à l'heure, où Cyril Gane mordait aux feintes aussi, parce que, évidemment, il respectait la puissance adverse, tout ce qu'il y a en carrière, je pense que Fernand avait vraiment insisté là-dessus, où Cyril, il y a quand même une... Et Cyril en avait parlé, il y a quand même une grosse zone de danger avec Derek Lewis. Donc forcément, quand Derek Lewis va feinter, Cyril Gane va un petit peu... va répondre aux feintes de Derek Lewis. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas tout un travail qui suivait à Derek Lewis pour, justement, une fois que Cyril Gane avait mordu aux feintes... Si Cyril Gane mordait aux feintes, de pouvoir ensuite toucher et avoir du succès. Seulement 16 frappes pour Derek Lewis, et surtout, tout simplement pas de succès, parce que sur les 16 frappes, je crois qu'au niveau des frappes significatives, c'est quasiment rien. Cyril Gane pas du tout marqué à la fin du combat, c'est vraiment pour lui, c'était très tranquille de la part de Cyril. Et je pense aussi, vous aussi, peut-être en commentaire, Cyril Gane n'a pas le KO power, mais il fait très mal aux gens. Les gens le négligent trop. Je suis exactement d'accord avec Rano38. Là, je pense que les gens s'en sont vraiment rendus compte, en fait. C'est que Cyril Gane, à mon avis, là, ils ont dû se dire, putain, on était là, il met pas trop de KO, il a pas de KO power, mais ça tape quand même très très fort, Cyril Gane, en fait. Et ok, il a pas cette puissance d'un Ngannou, cette puissance d'un Derek Lewis capable d'éteindre n'importe qui en un seul coup, mais là, vraiment... Je pense que les gens ont dû se dire, sur le knockdown de Derek Lewis, ou sur le crochet, c'est même pas clean qui touche Derek Lewis. Là, les gens ont dû se dire, ok, en fait, on... Et puis même dans le clinch, comme il a géré un gars qui faisait, peut-être, parce qu'à mon avis, il a cuté un petit peu Derek Lewis, entre 10 et 15 kilos de plus que lui, il a vraiment bougé Derek Lewis. Là, les gens ont dû se dire, ok, enfin... En plus, je pense qu'il commence à flipper maintenant, il y avait ce côté un petit peu phénomène technique, QI combat qui est... off the charts, Là, maintenant, ils doivent se dire, ok, physiquement, c'est quand même un sacré bestiau, aussi le bonhomme. Donc là, je pense qu'il y a pas mal de points d'interrogation où, qu'il y avait sur Cyril Gane, où les gens là commencent à se dire, putain, ça va être très compliqué à gérer Cyril pour la suite. Au niveau puissance, bah là maintenant aussi, ça risque d'être un petit peu tendu. Je sais vraiment pas ce qui... Ça va être curieux de voir ce qui va se passer les prochaines semaines, prochains mois. Là, sur les réseaux sociaux, on voyait, c'était un petit peu les gens qui reprochaient à Cyril de n'avoir pris clairement aucun risque chaque fois qu'il y avait Derek Lewis qui faisait des offensives ou des exploits athlétiques. Certes, Cyril, un petit peu de temps en temps, bah, couru comme Alexander Gustafsson l'a fait aussi. Mais il l'a fait quand il y avait des énormes alertes. Et ça, c'est pas interdit dans le sport. Et surtout, ça peut vous éviter de bien mauvaises surprises. Et quand je dis bien mauvaises surprises, c'est bien évidemment de vous prendre un chaos. Donc il y avait quelques moqueries là-dessus, mais notamment de la part des Américains qui sont... Bah, c'est vrai, hein, je pense qu'ils avaient un petit peu le seum. Hein. Il y a le petit Frenchie qui arrive à Houston et qui claque quand même une performance de fou. Rendez-vous compte, là, Cyril Gane, il est champion intérimaire de l'UFC. Il y a 3 ans, il commençait en MMA. Il est rentré à l'UFC en août 2019. Il y a 2 ans, il entrait à l'UFC. Et là, au cours des derniers mois, là, depuis le 27 février, il a quand même tapé Rozenstruik, Alexander Volkov, Derek Lewis. Aucun de ces combats-là n'était serré. Et maintenant, il a validé son ticket pour le title shot face à Francis Ngannou. C'est dingue, c'est même lui, je crois qu'il a dit, j'ai réussi à quelque chose de complètement fou. Ben oui, il a mis 3 ans pour quasiment finir le jeu. Alors que c'est... Ça va être assez frustrant pour pas mal d'athlètes, je pense aussi, parce que c'est vrai que la plupart vont dédier toute leur vie. C'est même Khabib qui disait ça, vous devez dédier toute votre vie au sport, faire d'énormes sacrifices, parce que le talent ne suffit pas, il faut énormément travailler. Cyril, bien évidemment, travaille énormément, mais il a commencé il y a 3 ans. Et aujourd'hui, il est premier français porteur d'une ceinture à l'UFC. Donc vraiment, Non, c'est complètement fou. Donc je suis en train de regarder. Oui, le journaliste, donc oui, c'est John Morgan, quand même fait gagner les 50K à Cyril Gane. On se souvient aussi de Dana White qui avait augmenté le bonus suite à Tony Ferguson, qui avait dit allez, on passe à 75 000. Et Dana White s'était exécuté. Donc vraiment, bravo aux journalistes. Oui, voilà, je suis entièrement d'accord. Courir, où il est entré dans la cage avec la Black Beast, il sait à quoi s'attendre, donc les moqueries à ce sujet, c'est typiquement américain, je suis entièrement d'accord, hein, de toute façon, et il s'est imposé, et en plus, il a fini Derrick Lewis. Si vous voulez, là, il a... C'est performance parfaite de la part de Cyril Gane, parce que parfaitement géré, parce qu'il y a le finish qui arrive, et qui est vraiment autoritaire aussi, après une semaine qui était quand même où... Derrick Lewis a essayé de le déstabiliser, lui est rentré dedans, et là, il s'affirme vraiment, Cyril Gane, en tant que copatron de cette catégorie heavyweight. Donc vraiment, franchement, c'est vraiment pour pinailler qu'il va y avoir ça. Comme vous pouvez voir dans d'autres combats où il y a des performances qui sont parfaitement abouties, et il va y avoir un moment, un espèce de mème qui va être extrait de ça, et qui va faire le tour pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'il y ait un prochain combat. Pour Derrick Lewis, oui, vous avez pas mal de questions. Ouais, je pense que Derrick Lewis, lentement mais sûrement, il y a quelques temps, certains en parlaient, quand Roy Nelson était parti de l'UFC, avec Derrick Lewis qui était un peu l'héritier de Roy Nelson. À mon sens, Derrick Lewis, lentement mais sûrement, devient gatekeeper de la catégorie. 8e défaite en carrière pour lui, là, face à Cyril Gane. Clairement, il n'y a pas eu match. Il n'avait pas les arguments pour rivaliser avec Cyril Gane. Alors qu'en plus, il se préparait pas pour le même adversaire, bien entendu, hein, puisqu'il se préparait pour Francis Ngannou à l'origine. Il a eu beaucoup plus de temps pour préparer ce combat-là. Et moi, je l'ai trouvé vraiment, vraiment très... Enfin, il y a eu... aucune surprise de la part de Derrick Lewis. C'était ce à quoi on pouvait s'attendre. Et ben voilà, Cyril a parfaitement géré quelqu'un qui n'a pas apporté quelque chose de différent de ce qu'il faisait d'habitude. Et face à un Cyril Gane, on avait parlé avec Polydomso, avec Rust, qui est extrêmement intelligent, il fallait pouvoir apporter quelque chose d'autre. Donc c'est vrai que là, il peut regretter ça, Derrick Lewis. Pour la suite, bah, ça reste quand même une superstar de la catégorie. Il y a pas mal d'adversaires potentiels pour lui. Moi, j'aimerais bien le voir contre le vainqueur de Curtis Blaydes contre Jairzinho Rozenstruik. Si il y a la revanche contre Curtis Blaydes, c'est intéressant parce que Curtis Blaydes, à fond de se prendre ce KO monumental sur un uppercut alors qu'il tentait le takedown, tout simplement gagner le combat. Donc ça peut être intéressant. Surtout que je pense que Curtis Blaydes, qui était en pleine bourre à cette époque-là, a à cœur d'effacer cette défaite. Et si c'est Jairzinho Rosenstruck, bah les gars, là... C'est ce genre de combat qui plaise tant aux fans, si vous voulez. Où vous avez deux gars qui peuvent éteindre la lumière sur un seul coup. Vous mettez ça en main event. Ça peut être très très sympa aussi. Donc non, pour Derek Lewis, moi je me fais aucun souci. Mais c'est vrai que là, pour le titre, ça risque d'être assez compliqué pour lui pour réussir à se frayer un chemin pour la suite. Si on a des infos sur pay-per-view, généralement les informations, elles arrivent au mieux, c'est le lundi, il y a les premières estimations qui arrivent, mais là je pense que d'ici deux semaines, on pourrait avoir les premières informations. Alors les gars, on va prendre les questions, donc n'hésitez pas à envoyer tout ça. On avait une question tout à l'heure... Le chaos de Cyril Gane est sous-côté, il déstabilise ses adversaires. Oui, exactement, Mr. W, oui, complètement. Il déstabilise ses adversaires avec des jabs. Le jab, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi, le meilleur de la catégorie, très clairement. En plus déstabilisé, il a sonné Derek Lewis avec ce jab aussi. Il a aveuglé Derek Lewis avec ce jab. C'est le jab qui lui permet d'initier la phase de finish, tout simplement, au cours du combat. Donc, non, là, aujourd'hui, le jab de Cyril Gane, c'est vraiment une arme assez monstrueuse pour la catégorie. Donc bon, franchement, et le chaos power de Cyril Gane est sous-côté. Oui, il est sous-côté. Il y avait pas mal pour ce combat-là, hein, c'était vraiment, oui, Cyril Gane, aux yeux de certains, était devenu un combattant ennuyeux. Alors qu'il avait des finishes, mais c'est vrai que sur les derniers combats, je crois que c'était Tanner Bowser. Il y a eu Tanner Bowser qui était par décision unanime, mais ensuite il y avait eu le KO contre Junior Dos Santos, puis là il avait enchaîné deux victoires par décision unanime, il avait parfaitement géré, mais il n'y avait pas eu ce KO ou cette finition face à Jairzinho, puis face à Alexander Volkov, et face à Jairzinho surtout, c'était Dana White qui n'avait pas été, par le biais d'un journaliste, donc c'était Kevin Ioli de Yahoo Sports, qui s'était pas montré impressionné par la performance de Cyril Gane, et c'est ça qui avait un petit peu, je pense, hein, parce que de être président de l'UFC, cristalliser un peu toutes les critiques qui pouvaient être faites à l'encontre de Cyril Gane. Mais là, je pense qu'à mon avis, vous regardez toutes les déclarations de Dana White depuis, il est ravi, va y avoir l'événement, en tout cas c'est ciblé par l'UFC à Paris. Bon, tout est oublié, j'ai envie de dire, tout est pardonné. Donc voilà, non, là, c'est tous les voyants sont au vert pour Cyril Gane. Une question, oui, c'était Vlog, ah oui, Yoka versus Milas à Roland-Garros, ça, pourquoi pas, faut qu'on regarde le calendrier avec les gars, mais ce serait intéressant, franchement, un combat de boxe d'envergure, mineur, je crois qu'il défend son titre IBU, Tony Yoka, contre un adversaire qui devait déjà affronter pour gagner cette ceinture européenne, dans un écrin. Somme toute magnifique. Je regrette juste peut-être j'aurais aimé un nom peut-être un petit peu plus clinquant que Petar Milas, mais bon. Là où il affronte à Roland-Garros, faut juste voir en fonction de notre disponibilité, mais nous en tout cas on serait vraiment intéressant parce que Tony Yoka c'est un vrai nom de la boxe, il a des très grosses ambitions, et moi j'aime beaucoup les, si vous voulez, les gens n'en ont pas l'habitude, mais quelqu'un qui affiche clairement ses ambitions en tant que sportif français, qui dit moi je vise le titre mondial. Et là pour Tony Yoka, qui a joué une malchance aussi, parce que bon, il y a eu ces trois no-shows qui l'ont un petit peu handicapé. Ensuite, il y a eu le Covid qui l'a un petit peu stoppé aussi, après sa victoire contre Johan Duopa. Là, j'ai vraiment envie qu'il accélère et que fin 2022, il puisse avoir sa chance à un titre mondial. Là, je crois qu'il est membre du top 15. Donc, ça se rapproche, on s'en rapproche lentement, mais sûrement, avoir un petit nom d'ici là. Et puis, pourquoi pas, j'aimerais bien un gros combat en Angleterre sur... là, ça va pas être possible, justement, pour son prochain combat, mais ça aurait été pas mal, je pense, un petit co-main event sur la carte Joshua contre Usyk. Enfin, c'est vraiment... Non, là, j'ai vraiment envie que Yoka, il accélère, et puis qu'on puisse voir, quoi, tout simplement, si là, qu'il se frotte au plus... au meilleur de la catégorie, tout simplement. Alors, on poursuit avec les questions. Alors, tu en as peut-être déjà parlé, mais au cas où, quels étaient vos pronos pour hier soir? Est-ce que vous êtes bon? Ouais, non, on a vraiment été pas mauvais, je crois, sur les pronostics. Alors, je vais reprendre la carte complète. Donc, au niveau de la main card, hein, bien évidemment, on va pas faire toute la carte, mais donc Polydom soit moi-même, puisqu'on avait fait les pronostics tous les deux. Donc il y avait Song Diagudong, Casey Kenny. Je crois que là, Podium Sun avait dit Casey Kenning, j'avais dit Song Yadong. Tesha Torres, Angela Hill, on était tous les deux vers Tesha Torres, donc elle a gagné. Vincent Eluke, Michael Chiesa, moi je voyais Michael Chiesa, et Polydomso voyait Vincent Eluke, et donc c'est Vincent Eluke qui s'est imposé. Bantamweight, donc José Aldo contre Pedro Munhoz, je voyais José Aldo, il voyait Pedro Munhoz, et Cyril Gane avec Lewis, on voyait tous les deux Cyril Gane, donc on sait, je trouve hein, à mon sens, on s'est pas mal débrouillé sur cette carte là. Donc voilà. Comment est la cote de popularité de Cyril Gane international? Bah là, il a, voilà, ça, pouh, c'est en train d'exploser pour Cyril. Là, mine de rien, c'était son premier pay-per-view numéroté. C'est arrivé vite dans sa carrière. Mais là, il s'établit vraiment en tant que contender. Si vous avez vu les Embedded, le Countdown, l'UFC misait énormément sur lui. Ce potentiel de premier événement UFC à Paris fait pas mal saliver les Américains. Donc non, franchement, c'est pour lui, c'est de très très bon augure pour la suite. Il est pas au niveau d'un Derrick Lewis encore, pas encore au niveau des superstars, mais il était à 162 000, je crois, abonnés sur Instagram avant son combat contre Derrick Lewis. Quand je dis avant, c'était le samedi après-midi. Et là, il est à 212 000 ou quelque chose comme ça, ou 220 000, attendez, je vais regarder. Donc il y a une traction, il y a une véritable traction. L'image, Fernand Lopez et Benjamin Sarfati, ces deux coachs qui étaient hyper émus, enfin vraiment moi ça m'a touché, Rust aussi était hyper touché, c'est de belles images parce qu'on voit que ce sont des émotions sincères, des mecs qui ont donné énormément pour leur athlète, donc ça aussi, ça, si vous voulez, nous on les connaît personnellement et vous aussi, je pense que ce soit par le biais des médias, des interviews, les gens qui ne connaissaient pas cette équipe MMA Factory, je pense qu'ils ont aussi été touchés par ce qui s'est passé, parce que c'est beau aussi, Cyril Gane qui va donner ensuite la ceinture à Fernand, en mode, bah, c'est pour mon coach, parce que mine de rien, il accompagne Cyril depuis le début de sa carrière, c'est de très beaux moments, et donc tous ceux qui ne connaissaient pas Cyril, bah, mine de rien, à mon avis, ont été un peu conquis par ça, et puis par Fernand Lopez, où là, ils se disent aussi, bah, c'est quand même beau pour ce mec-là, qu'a enfin une ceinture UFC, donc c'est vrai que c'était un beau moment aussi de ce côté-là, où il y avait vraiment un moment de communion entre toute l'équipe. Donc Cyril Gane, oui, parce qu'on était sur les réseaux sociaux, 235 000 là, abonnés sur les réseaux sociaux, donc ça a vraiment, vraiment monté pour lui. Alors je vais prendre quelques questions. Il y était Rusty, yes sir, Rusty y était, Rusty B y était, vraiment, c'était, il vous prépare de très belles choses, Rust. Donc, je vais répondre à Haywire, fidèle parmi les fidèles. Merci, Haywire, pour tout ce que tu fais dans le chat, justement, ce travail de l'ombre. Pas d'event UFC cette semaine, on aura quand même nos petites live, Guillaume. Oui, demain, je vous donne rendez-vous à 17h30, pour un petit live sur Twitch. 17h30, soyez au rendez-vous. Preview d'un combat qui devrait arriver bientôt, dont, pour la suite de l'UFC 265, donc voilà, on va parler de tout ça. Alors, Rasta, bonjour l'équipe, petit question, avez-vous suivi Cyril Gane pour ce match avant d'en faire une vidéo immersion comme d'habitude, sinon grosse force à vous, la sueur, mais même à Factory. Vous verrez, en tout cas on travaille d'arrache-pied pour foufounir quelque chose qui sera pas mal. Et un petit mot sur la médaille olympique en karaté. Bah, super performance de Stephen D'Agosta, bien évidemment. On regrette juste, comme pas mal de gens, je pense, hein, le fait que, ok, très belle médaille d'or, mais malheureusement, il ne pourra pas briller à Paris parce que la discipline sort des Jeux Olympiques. Ça, c'est le jeu des JO aussi. Franchement, chapeau l'artiste. Je vois pas ce qu'il y a d'autre à dire. Cocorico. Ça fait énormément plaisir, et voilà, je pense que tout le monde est ravi de ce qui s'est passé, bien évidemment. Et oui, une honte, vraiment, oui, par rapport aux disciplines sportives, mais c'est très compliqué, parce que, c'est les JO, si vous voulez, il y a des disciplines qui doivent entrer, d'autres qui doivent sortir, là, le MMA doit rentrer, normalement, on croise les doigts pour les JO 2028 à Los Angeles, ça veut dire que des disciplines vont en sortir, et là, je pense que vous, dans le chat, comme moi, bah, on est content que le MMA arrive aux Jeux Olympiques, mais malheureusement, il y a un des sports qui va devoir sortir. Donc c'est un petit peu ça, je connais pas du tout, là je suis pas du tout suffisamment informé sur le sujet, c'est pour ça que je suis pas très à l'aise pour en parler, mais j'ai bien évidemment pas toutes les informations à ce sujet, mais c'est, voilà, il y a des sports qui entrent, des sports qui sortent, là il y a par exemple les premières du skate, Moi, je suis pas du tout dans cette mouvance-là. Il y avait pas mal de gens qui s'étonnaient de voir des jeunes qui avaient à peu près 14 ans qui étaient médaillés. Mais si vous êtes peut-être fan de skateboard, c'était peut-être une très bonne nouvelle pour vous aussi. Donc voilà, c'est ça aussi, ça dépend des sensibilités, des sports que chacun pratique. Donc c'est assez compliqué en fait ce sujet-là, tout simplement. Mais c'est vrai que pour Dacosta, c'est assez dommage. Médaille d'or, on aurait bien aimé le voir, je pense, hein, le voir à Paris au JO 2024. Voilà qui arrive dans 3 ans. Maintenant. Bah voilà. Les gars, merci à tous pour votre fidélité. Vraiment, ça m'a fait très plaisir de passer un petit peu de temps avec vous pour parler un petit peu plus en détail de l'UFC 265. On se retrouve très très vite pour parler de la suite parce que bien évidemment, il y a... Il y a d'autres choses qui vont se passer très très vite parce que, en tout cas, au niveau de l'UFC 265, là c'est terminé, mais il y a le Glory qui arrive, il y a d'autres événements. Il y a aussi de la boxe anglaise, bien évidemment. Donc voilà, on arrive très, enfin, on arrive très prochainement. La sueur, ça suit son cours. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. On a préparé un très gros concours sur la vidéo récap et réaction. Ça se passe dans l'espace commentaire de la vidéo récap et réaction. Donc je vous invite à aller la voir. Si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast, que ce soit iTunes, les 5 étoiles font toujours plaisir. On est aussi sur Spotify, sur Google Podcast et j'en passe. Et puis si vous êtes sur Twitch, n'oubliez pas, la Twitcherie n'est jamais finie. On est très content en tout cas du retour qu'on a sur nos premières expériences sur Twitch. Merci à vous. On se quitte sur le générique. À très très vite. Et merci de votre fidélité parce que grâce à vous, on avance et puis on arrive à faire des choses qui sont assez intéressantes. Allez, see ya.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.